Évangile selon Jean, chapitre 16. Introduction. Lecture de l'étude. En méditant les dernières paroles du Seigneur Jésus, rapportées en Jean 13 à 16, souvenons-nous toujours que le Seigneur a en vue de préparer les siens à rendre témoignage pour lui, ici-bas, où il a été rejeté pendant le temps de son absence. Pour l'accomplissement de ce grand propos, nous avons vu, dans les entretiens précédents, la nécessité pour nous d'avoir les pieds lavés, chapitre 13, le cœur consolé et attaché aux personnes divines, chapitre 14, de manifester dans nos vies le caractère de Christ et d'ouvrir nos bouches pour rendre témoignage pour Christ, chapitre 15. Enfin, dans ce dernier entretien, notre esprit est instruit afin que nous puissions rendre un service intelligent et ne pas être arrêtés par l'opposition que nous pouvons rencontrer de la part d'un monde qui, tout en étant religieux, rejette Christ. Le grand objet de ce dernier entretien est de nous instruire dans la pensée de Christ. Il peut y avoir dans le service du Seigneur beaucoup de zèle, mais non selon la connaissance et, par conséquent, peu de résultats et beaucoup de déceptions. Combien il importe donc d'avoir la pensée du Seigneur. L'instruction de cet entretien est présentée dans l'ordre suivant. Premièrement, nous sommes prévenus du traitement que le monde religieux fera subir à ceux qui rendent témoignage à Christ. Versets 1 à 4. Deuxièmement, nous apprenons que pour être rendus intelligents dans la pensée de Christ, il faut que Christ s'en aille au Père et que le Consolateur vienne, versets 5 à 7. Troisièmement, lorsque l'Esprit sera venu, les croyants seront enseignés quant au vrai caractère de ce présent siècle mauvais, versets 8 à 11. Quatrièmement, par le Saint-Esprit, les croyants sont amenés à la connaissance d'un autre monde, le monde à venir, versets 12 à 15. Enfin, les croyants sont instruits quant au vrai caractère du jour nouveau qui va poindre, versets 16 à 33. La persécution de la part du monde religieux, chapitre 16, versets 1 à 4.
Lecture de la parole. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même leur vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi je vous les ai dites. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement parce que j'étais avec vous.
Lecture de l'étude. Dans le discours précédent, le Seigneur avait placé devant ses disciples les caractéristiques de la nouvelle compagnie chrétienne dont le privilège serait de porter du fruit pour le Père et de rendre témoignage à Christ dans un monde duquel Christ est absent. Verset 1er. Mais ceux qui, en quelque mesure, portent le caractère de Christ et lui rendre témoignage dans un monde qui le hait, auront certainement à rencontrer quelque chose des souffrances et des persécutions qui sont placées devant nous dans les premiers versets de ce chapitre. Dans son amour tendre et prévenant, le Seigneur, anticipant les souffrances des siens, leur donne cet avertissement plein de grâce, de peur que, lorsque la persécution se manifesterait, ils ne soient scandalisés. Sans cet avertissement, leurs préjugés naturels, forgés par leurs liens avec la dispensation qui se terminait, ainsi que leur ignorance de l'ère nouvelle, chrétienne, qui allait poindre, pouvaient devenir une occasion de chute lorsqu'ils seraient confrontés à la persécution. L'histoire subséquente des disciples allait prouver combien cet avertissement était nécessaire. Jean le Baptiseur, en son temps, a été bien près d'être scandalisé. sa foi reçut un rude choc en raison de l'accueil qui lui fut fait, si contraire à ce qu'il avait pensé. À la suite de son fidèle témoignage, il se trouve en prison et, ne connaissant pas la pensée du Seigneur, il lui envoie ce message « Es-tu celui qui vient ?» Il reçoit en réponse « Bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » C'était à ce danger que les disciples étaient confrontés. Plein du faux espoir d'une délivrance immédiate d'Israël, ils ne seraient guère préparés à être persécutés par Israël. Leurs fausses espérances les exposaient au danger d'être scandalisés. Versets 2 et 3. L'avertissement du Seigneur les prépare non seulement à la persécution, mais à la persécution religieuse. Les disciples de Christ seraient exclus des synagogues, ce qui entraînerait la perte de toute communion que ce soit dans le cercle familial, social ou politique. Jean 9, verset 22.
Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Christ, il serait exclu de la synagogue.
Cette persécution religieuse procéderait de motifs religieux. Quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Aussi, plus la sincérité serait grande, plus la persécution serait impitoyable. Mais cette persécution viendrait de ceux qu'ils n'ont connu ni le Père ni le Fils. Et il en a été ainsi de toute forme de persécution religieuse. On a dit très justement, comme il en a été des Juifs qui ont persécuté les chrétiens, ainsi en fut-il des chrétiens qui ont persécuté les chrétiens. Des choses ont été faites pour la gloire de Dieu et au nom de Christ, au sujet desquelles celui qui regarde des cieux ne pouvait que dire « Ils n'ont connu ni le Père ni moi ». Verset 4. Dans les jours à venir, la persécution deviendrait une occasion de rappeler les paroles du Seigneur et ils seraient consolés en réalisant d'une façon nouvelle que le Seigneur avait tout connu à l'avance et qu'à l'avance, son amour les avait avertis. Jusqu'ici, la nécessité de parler de ces choses ne s'était pas présentée du fait que le Seigneur était là pour les protéger et les garder. Ces choses appartenaient au temps de son absence, non à celui de sa présence. La nécessité du départ de Christ, chapitre 16, versets 5 à 7.
Lecture de la parole. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Lecture de l'étude. Mais si les disciples devaient être instruits quant à la pensée du Seigneur, il était nécessaire que lui s'en aille et que le Consolateur vienne. Le Seigneur reconnaissait leur affection pour lui et, dans sa tendresse, il sympathisait à la tristesse qui remplissait leur cœur à la pensée qu'il allait les quitter. Néanmoins, connaissant le bénéfice immense qu'il retirerait de la venue de l'Esprit, il peut dire « Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Nous sommes peut-être lents à réaliser l'immense bénédiction pour nous et la gloire pour Christ qui découle de la présence de l'Esprit. Mais ce qui devrait nous faire attacher plus de prix au don de l'Esprit, c'est de voir quelle valeur le Seigneur lui reconnaissait. Certes, la compagnie du Seigneur dans sa marche sur la terre a dû être une chose bénie. Voir ses œuvres de puissance et entendre ses paroles d'amour, contempler ses perfections et expérimenter ses soins, quelle bénédiction cela devait être. Et pourtant, son départ leur serait avantageux, car, par la venue de l'Esprit, les croyants peuvent être amenés à une connaissance plus profonde de Christ, à une appréciation plus riche de ses perfections et, par-dessus tout, à la connaissance d'un Christ exalté comme homme dans la gloire. Connaître par l'Esprit Christ dans la gloire doit être une bénédiction infiniment plus grande que la connaissance de Christ sur la terre selon la chair. Cela implique l'union avec un Christ glorifié, impossible quand il était présent dans le monde. L'union avec un homme dans le ciel est une bénédiction bien supérieure à la compagnie d'un homme sur la terre. Pourtant, leur tristesse présente à la pensée de perdre le Seigneur cachait aux disciples la bénédiction que Dieu avait en réserve pour eux au travers de cette tristesse. Nous pouvons tirer de cela un principe d'une vaste application. Être préoccupé des circonstances présentes nous cache le propos de Dieu pour une bénédiction future qu'il opère par le moyen des circonstances pénibles. Le fait, pour les disciples, d'être absorbés par leur tristesse du moment voilait à leurs yeux le grand fait que, par son départ, le Seigneur allait ouvrir la voie au développement de tous les vastes conseils de Dieu pour la gloire de Christ et la bénédiction des siens. Il en est souvent ainsi de nous-mêmes. Accablés par quelques fardeaux du moment, nous ne voyons pas que Dieu s'est proposé, au travers de ces circonstances mêmes, de nous amener à des bénédictions spirituelles plus étendues. Nous oublions ce verset qui dit « Dans la détresse, tu m'as mis au large » Psaume 4, verset 1er. Le monde actuel mis à découvert, chapitre 16, verset 8 à 11.
Lecture de la parole. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé.
Lecture de l'étude. À partir de cet endroit du discours, le Seigneur revient à l'instruction des deux derniers versets du chapitre 15, en relation avec la venue du Saint-Esprit. Dans les versets intermédiaires, le Seigneur avait parlé du témoignage que rendraient les disciples et de la persécution qui en résulterait. Il reprend ce grand thème par les mots « quand celui-là sera venu », une expression que nous avons déjà trouvée au chapitre 15, verset 26, et que nous retrouverons au chapitre 16, verset 13. Dans chacun des cas, elle marque une nouvelle étape dans l'instruction. Au chapitre 16, verset 8, la venue du Saint-Esprit démontre le vrai caractère du monde. Au chapitre 16, verset 13, il vient pour guider le croyant dans la vérité d'un autre monde. Avant la révélation de cet autre univers, le vrai caractère du monde actuel est exposé, et ainsi nous lisons « Quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. » Il n'est pas question ici de savoir qui est convaincu, mais le fait est établi que la présence du Saint-Esprit est la démonstration du vrai caractère du monde. En fait, ce n'est pas le monde comme tel qui reçoit la démonstration, mais ceux en qui l'Esprit demeure, bien qu'ils se servent de ce qu'ils ont appris pour rendre témoignage au monde de sa vraie condition. La présence de l'Esprit ne met pas le monde à l'épreuve. Le monde a été pleinement mis à l'épreuve par la présence de Christ. Lui a été ici-bas d'une manière telle que le monde pouvait voir ses œuvres de grâce et entendre ses paroles d'amour. Et le Seigneur résume le résultat de cette mise à l'épreuve en disant « Ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père. » Quand l'Esprit viendra, le monde ne pourra pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais aux croyants, ceux en qui il habite, il donne la démonstration du résultat de la mise à l'épreuve afin que, instruit par l'esprit, il n'est pas une fausse conception du monde. Par l'enseignement de l'esprit, ils connaissent le vrai caractère du monde tel que Dieu le voit. Son caractère est démontré quant au péché, à la justice et au jugement. Cette conviction est opérée dans l'âme, non par l'emploi de déclarations abstraites, mais par référence au Seigneur Jésus et aux grands faits de son histoire. D'abord, l'état du monde est prouvé à l'égard du péché. La présence de l'Esprit est en elle-même une preuve du mauvais état du monde, car si Christ n'avait pas été rejeté, le Saint-Esprit ne serait pas là. Sa présence est une preuve que le monde a haï, rejeté et crucifié le Fils de Dieu. Juifs et gentils, représentant le monde religieux et le monde politique, se sont unis pour dire « Hôte, hôte, crucifie-le ». C'est donc un monde qui ne croit pas en Christ, et ce fait solennel prouve qu'il est sous le péché. On pourrait comprendre que le monde ne croit pas en n'importe qui d'autre. Mais si le monde ne croit pas en Christ, un homme en qui il ne trouvait rien à reprendre, c'est une preuve évidente qu'il doit être gouverné par un principe mauvais que Dieu appelle péché. La démonstration finale et absolue que le monde est sous le péché se trouve non dans ce que les hommes ont transgressé certaines lois de Dieu ou souillé le temple et lapidé les prophètes, mais en ce que, lorsque Dieu a été manifesté ici-bas en toute grâce, amour, puissance et bonté en faveur de l'homme coupable, comme ses caractères ont été présentés dans la personne de son Fils, venu en chair et demeurant au milieu des hommes, le monde a définitivement et formellement rejeté Dieu en refusant de croire en son Fils. Voilà le fait déterminant qui est la démonstration du péché du monde. Aussi beau que le monde puisse paraître parfois extérieurement, quelque progrès qu'il puisse faire dans la civilisation et les inventions, le fait demeure, la présence du Saint-Esprit prouve que c'est un monde qui ne croit pas en Christ et, par conséquent, un monde sous le péché. Deuxièmement, la mauvaise condition du monde est prouvée quant à la justice. La présence de l'Esprit prouve non seulement que Christ a quitté le monde, mais aussi qu'il a été reçu dans la gloire. Si l'absence de Christ est la preuve la plus éclatante du péché du monde, sa présence dans la gloire est la plus éclatante expression de la justice. Le péché des hommes a atteint son point culminant quand le monde a placé sur la croix celui qui était sans péché. La justice est vue d'une part en ce que Christ, qui a été cloué sur la croix, est retourné auprès du Père, et d'autre part en ce que le monde comme tel ne le verra plus. Ce n'est que juste qu'il ait la place la plus élevée dans la gloire. Ce n'est que juste que le monde qui l'a vu et l'a haï sans cause ne le voit plus. Il est ainsi démontré que le monde est sous le péché et sans justice. Troisièmement, l'Esprit convainc de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Derrière le péché de l'homme, il y a la ruse de Satan. L'homme n'est que l'instrument du diable. Dieu s'est proposé d'établir Christ dans le lieu de la puissance suprême dans l'univers. Le diable a entrepris de contrecarrer le dessein de Dieu, et depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix du calvaire, il s'est servi de l'homme comme instrument pour exécuter ses plans. À la croix, il a semblé que le diable avait triomphé, car là il a réussi, en se servant de l'homme, a cloué sur la croix infâme celui-même que Dieu a destiné à un trône de gloire. Mais la présence de l'Esprit démontre que, malgré tout ce que le monde, poussé par son chef, a fait contre lui, Christ occupe la place la plus élevée dans la gloire. Dieu a triomphé du péché de l'homme et de la puissance du diable. La position de gloire dans laquelle Christ est établi est la preuve que le diable a été défait dans l'expression dernière de sa puissance. Cela annonce nécessairement le jugement final et absolu du diable. Et si le diable est jugé, tout le système du monde dont il est le chef viendra sous le jugement. Le jugement n'est pas encore exécuté, mais moralement le monde est déjà condamné avec son chef. Tel est donc l'état du monde aux yeux de Dieu, constaté par la présence de l'Esprit. C'est un monde sous le péché, sans justice et allant au-devant du jugement. Le monde à venir révélé, chapitre 16, versets 12 à 15.
Lecture de la parole. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera.
Lecture de l'étude. Laissant le monde actuel, le Seigneur passe, en pensée, à un domaine au sujet duquel il a beaucoup de choses à dire, bien que, pour le moment, cela dépasse la compréhension des disciples. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il annoncera aux disciples les choses qui vont arriver. Il conduira dans toute la vérité. Pour être des témoins fidèles pour Christ dans ce monde, il ne suffit pas de connaître le vrai caractère du présent siècle. Il nous faut aussi avoir la lumière d'un autre monde pour guider nos pas au travers de ce monde ténébreux. Mais si l'Esprit met en lumière les gloires du monde à venir, il ne les développe pas actuellement. Christ lui-même, à son retour, manifestera ces choses glorieuses. Par l'Esprit, la foi marche dans la lumière présente des gloires futures. L'étoile du matin se lève dans nos cœurs avant que le soleil de justice ne brille sur le monde. En outre, le Seigneur ne suggère pas que la venue de l'Esprit de vérité changerait le cours de ce monde actuel. Sa présence condamne le monde. Son enseignement délivre les croyants des choses présentes en leur donnant la lumière des choses à venir. Hélas, beaucoup cherchent à se servir du christianisme pour améliorer ce monde, mais ils ne tardent pas à découvrir que de tels efforts ne mènent qu'à corrompre le christianisme et à parer le mal de ce monde d'un vernis religieux. Le Seigneur ne suggère pas non plus que la venue de l'Esprit assurerait le confort et la prospérité terrestre des siens pendant la traversée de ce monde. Il peut souvent y avoir parmi ceux qui appartiennent au Seigneur de grandes différences quant à leurs circonstances et à leur niveau social ici-bas, mais lorsqu'il s'agit des vraies richesses célestes selon les conseils du Père, ils sont sur un même terrain. La lumière présente de cet univers de gloire est la portion de tous les saints. Quelles que soient nos circonstances dans cette vie, il nous est au moins donné la possibilité, en esprit, de connaître et de goûter les gloires les plus grandes et éternelles du monde à venir, dans lequel nous allons, dans si peu de temps, entrer de fait. Pour que nos cœurs puissent entrer dans les bénédictions de cet univers nouveau, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. L'étendue entière de la vérité, quant aux propos de Dieu, la gloire de Christ dans l'Église, la bénédiction de l'Église avec Christ et la bénédiction des hommes dans le royaume pendant tout le millénium et jusqu'aux gloires du nouveau ciel et de la nouvelle terre, sont à notre disposition dans la puissance du Saint-Esprit. Dans cette vaste sphère de la vérité, l'Esprit nous conduira, mais il ne nous forcera pas ni ne nous contraindra. Pour chacun se pose la question adressée autrefois à Rebecca : iras-tu ? le serviteur était là, prêt à la conduire vers Isaac, comme l'Esprit est venu pour nous conduire à Christ. Le serviteur pouvait dire « Ne me retardez point, et que je m'en aille vers mon Seigneur ». Et ne pouvons-nous pas dire que le désir du Saint-Esprit est, non pas d'améliorer ce monde ou d'établir les saints sur cette scène, mais de retourner auprès de celui qui l'a envoyé, emmenant avec lui l'épouse vers Christ? Hélas, nous retardons souvent le Saint-Esprit en nous détournant dans quelque chemin de notre propre choix, et nous perdons alors la direction du Saint-Esprit. Un engagement mondain ou quelques fausses associations religieuses peuvent nous retenir, et jusqu'à ce que nous en soyons libérés, l'Esprit cessera de nous conduire plus avant dans la vérité. Les chrétiens semblent bien peu se douter combien facilement les progrès de l'âme dans la vérité peuvent être empêchés par des associations qui ne sont pas selon la parole. Non seulement le Seigneur dit que l'Esprit conduira, mais trois fois il dit « Il vous annoncera », versets 13, 14 et 15. Nous ne pouvons pas nous conduire nous-mêmes dans toute la vérité, nous ne pouvons pas nous annoncer à nous-mêmes les choses qui vont arriver ou les choses qui concernent Christ. Nous sommes complètement dépendants de l'Esprit. Combien alors il importe de refuser, à tout prix, tout ce qui empêcherait l'Esprit de nous conduire dans la plénitude de la bénédiction. Le Seigneur nous indique très clairement le triple caractère de la bénédiction dans laquelle le Saint-Esprit nous conduira. D'abord, le verset 13 parle des choses qui vont arriver. Puis au verset 14, nous avons les gloires de Christ. Enfin, au verset 15, il s'agit de « tout ce qu'a le Père ». Voilà les choses dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire, si nous ne l'en empêchons pas. Il déroulera devant nous toute la félicité du monde à venir. Il prendra les gloires de Christ et nous les annoncera. Il nous découvrira toute l'étendue des conseils du Père qui ont Christ pour centre. Puissions-nous réaliser plus pleinement qu'il y a un monde de félicité entièrement en dehors de la sphère de la vue naturelle et au-delà des limites de l'esprit humain? Un univers dont il est dit ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Nous triomphons par ta victoire, Seigneur Jésus, puissant Sauveur, dans les hauts lieux et dans la gloire des rachetés le précurseur. Oui, pour le ciel, notre espérance, sûre à jamais, repose en toi. De notre cœur, ferme assurance, objet béni de notre foi. Le jour nouveau, chapitre 16, versets 16 à 33.
Lecture de la parole. Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns donc d'entre ses disciples se dirent les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci qu'il nous dit un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je m'en vais au Père? Il disait donc, qu'est-ce que ceci qu'il dit un peu de temps? Nous ne savons ce qu'il dit. Jésus donc savait qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, vous vous enquérez entre vous touchant ceci que j'ai dit, un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, et vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue, mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôte votre joie. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses par des similitudes. L'heure vient que je ne vous parlerai plus par similitude, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des demandes au Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde, et de nouveau je laisse le monde et je m'en vais au Père. » Ses disciples lui disent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis aucune similitude. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne te fasse des demandes. À cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient, et elle est venue que vous serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. »
Lecture de l'étude. Le Seigneur a terminé la partie de son discours qui dévoile aux disciples la grande lumière qui, en conséquence de la venue du Saint-Esprit, illuminera leurs entendements. Maintenant, comme les entretiens touchent à leur fin, il ne parle plus de l'Esprit, mais de ce jour, le jour nouveau qui allait poindre avec la révélation nouvelle qu'il donnerait de lui-même en tant que ressuscité, versets 16 à 22. Le caractère nouveau des relations qu'ils auraient avec le Père, versets 23 et 24, et la forme nouvelle dans laquelle le Seigneur communiquerait avec eux, versets 25 à 28. Il convient de rappeler que les deux événements qui distinguent ce jour sont le départ de Christ pour être avec le Père, et la venue de l'Esprit pour demeurer dans les croyants. Dans la portion du discours qui vient de se terminer, ce jour est considéré en rapport avec la venue du Consolateur. Dans la partie qui va suivre, ce jour est vu en relation avec Christ s'en allant auprès du Père et avec tout ce qu'implique sa présence auprès du Père. Verset 16. Des déclarations merveilleuses concernant les gloires à venir qui seraient révélées dans la puissance de l'Esprit ont été placées devant les disciples. Mais, comme les derniers moments avec eux vont prendre fin, ils sont laissés avec Jésus lui-même comme l'objet de leurs affections. Certes, l'Esprit veut susciter ses affections, mais jamais il n'en est, comme Jésus, l'objet. Aussi le Seigneur occupe leur cœur de lui-même en disant « Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez. » Par ces paroles, le Seigneur non seulement les occupe de lui, mais il fait allusion aux grands événements qui sont si proches et prépare leurs cœurs aux changements qui s'en suivraient. Versets 17 et 18. Les paroles du Seigneur suscitent des questions angoissées parmi les disciples, ce qui montre que chaque déclaration était un mystère pour eux. Remarquons que, à mesure que les discours progressent, les disciples deviennent plus silencieux. 5 des disciples ont parlé à diverses reprises, mais depuis qu'ils ont quitté la chambre haute, nulle autre voix que celle du Seigneur ne s'est fait entendre. Tandis que les grandes vérités concernant la venue de l'Esprit étaient développées, ils avaient écouté en silence ce qui était tellement au-delà de leur compréhension. Maintenant que le Seigneur parle de nouveau de lui, leurs cœurs sont anxieux de connaître la signification de ses paroles. Mais, même alors, ils parlent entre eux-mêmes, hésitant à faire part de leurs difficultés au Seigneur. Versets 19 à 22. Le Seigneur prévient leur désir de demander la signification de ces paroles et, non seulement, jette davantage de lumière sur ce qu'il a dit, mais leur révèle aussi combien leur cœur serait touché, tant par la tristesse que par la joie, lors des grands événements tout proches. Les paroles du Seigneur mentionnent clairement deux courts intervalles de temps et indiquent que bientôt les disciples ne le verraient plus et qu'ensuite ils le reverraient. À la lumière des événements qui suivent, ne pouvons-nous pas dire que ces paroles indiquent que, à ce moment, il ne restait que quelques brèves heures avant que le Seigneur ne quitte ses disciples pour disparaître de la vue des hommes en entrant dans les ténèbres de la croix et du tombeau. Puis, après un second un peu de temps, les disciples verraient le Seigneur, toutefois non comme auparavant dans les jours de sa chair, mais en résurrection. S'ils ne devaient plus le voir comme dans les jours de son humiliation, ils le verraient pour toujours dans sa condition nouvelle et glorieuse de résurrection, au-delà de la mort et du tombeau. Ce serait néanmoins le même Jésus qui avait habité au milieu d'eux, qui avait supporté leur faiblesse, soutenu leur foi et gagné leur cœur, qui reviendrait au milieu d'eux et dirait « Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même !» Le Seigneur dit en outre à ses disciples comment ces événements successifs les affecteraient en tristesse et en joie. Le court moment pendant lequel ils ne le verraient pas serait pour eux un temps d'accablante tristesse, un temps de pleurs et de lamentations sur celui qui était mort et dont le tombeau était la fin de toutes leurs espérances terrestres. Le monde, certes, se réjouirait, pensant avoir triomphé de celui dont la présence mettait à nu la méchanceté de leurs agissements. Mais une fois ce court moment passé, leur tristesse serait changée en joie. Pour présenter au cœur des disciples ces événements à venir, le Seigneur se sert de l'illustration de la femme donnant le jour à son enfant. La tristesse subite, l'angoisse changée en joie et la naissance de l'enfant représentent exactement la tristesse soudaine qui envahirait les disciples lorsque le Seigneur serait entré dans la mort, comme aussi elles illustrent le passage rapide de l'angoisse à la joie, lorsque, de nouveau, il voit le Seigneur ressuscité comme le premier-né d'entre les morts. En faisant l'application de cette illustration, le Seigneur développe ses paroles. Il avait déjà dit « Vous me verrez ». Il ajoute maintenant « Je vous reverrai ». Le monde ne le verrait pas et il ne reverrait pas non plus le monde. C'est vers les siens qu'il reviendrait. Et c'est bien ce qui se passa, comme nous le lisons plus tard, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix vous soit ». Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Chapitre 20, versets 19 et 20. De plus, ce revoir dont le Seigneur parle ne peut guère être limité aux brèves visites des 40 jours après la résurrection. On a dit à juste titre, le Seigneur ressuscité et vivant s'est montré à la vue de leurs yeux, afin de demeurer devant la vue de leur foi, non comme un souvenir, mais comme une présence. Et encore, c'était une vision qui ne pourrait jamais être effacée ni obscurcie, mais qui, au contraire, devenait plus nette à mesure qu'elle devenait plus spirituelle. Pendant tout le temps de son absence, alors que nous sommes encore sur la terre et que lui est dans la gloire, les paroles du Seigneur resteront toujours vraies. « Vous me verrez » et « Je vous reverrai ». Les yeux attachés sur cette gloire, Étienne peut dire « Voici ». Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur ». C'est cette vision spéciale de Christ qui assure la joie du croyant. le Seigneur vivant est la joie des siens, et parce que sa vie est éternelle, leur joie est permanente et sûre. Aussi le Seigneur peut dire, et personne ne vous ôte votre joie. Versets 23 et 24. Le Seigneur a parlé de la nouvelle révélation de lui-même dans le jour nouveau qui allait poindre tout prochainement. Il parle maintenant des relations d'un caractère nouveau, correspondant à ce jour nouveau. « En ce jour-là, dit le Seigneur, vous ne me ferez pas de demande. » Parole qui n'implique pas que nous ne devions jamais nous adresser au Seigneur, mais plutôt que nous avons accès directement au Père. Marthe n'avait aucun sens de ce qu'était parler directement au Père lorsqu'elle disait « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera » Jean 11, verset 22. Nous n'avons pas maintenant à demander au Seigneur d'aller au Père pour nous, mais c'est notre privilège de demander directement au Père au nom de Christ. Jusqu'alors, les disciples n'avaient rien demandé en son nom. En ce jour-là, ils demanderaient en son nom, et le Père donnerait en son nom, afin que leur joie soit accomplie. En recourant aux ressources inépuisables qui leur étaient ainsi ouvertes, ils trouveraient plénitude de joie. Verset 25. En outre, du côté du Seigneur, ces communications prendraient un caractère nouveau. Jusqu'ici, une grande partie de son enseignement avait été donnée sous forme de paraboles ou d'allégories. Dans le jour qui allait poindre, il parlerait ouvertement du Père. Il en fut ainsi après sa résurrection, lorsqu'il envoya un message aux disciples, disant clairement « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Versets 26 à 28. Bien que le Seigneur veuille nous parler ouvertement du Père, il ne lui sera pas nécessaire de faire des demandes au Père pour nous, comme si le Père ne connaissait pas nos besoins ou que nous n'ayons pas libre accès auprès du Père. Car, dit le Seigneur, le Père lui-même vous aime. Le Père porte le plus grand intérêt aux disciples et les aime parce qu'ils aiment Christ et croient qu'il était sorti d'auprès de Dieu. Le Seigneur termine cette partie de l'entretien en affirmant les grandes vérités sur lesquelles repose tout l'édifice du christianisme. « Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde, et de nouveau je laisse le monde et je m'en vais au Père. » Hélas, la chrétienté professante, tout en affectant de faire grand cas de la vie parfaite de notre Seigneur, est en train d'abandonner rapidement les saintes conséquences que comporte cette grande affirmation. Cette déclaration de son origine divine, de sa mission dans le monde et de son retour auprès du Père, clôt de façon appropriée l'instruction contenue dans cet entretien. Versets 29 à 32. Les derniers versets sont moins une instruction qu'une parole finale d'avertissement quant à la faiblesse des disciples, suivie d'une parole qui révèle les sentiments du cœur du Seigneur et du dernier mot d'encouragement. Devant cette affirmation claire de la vérité, les disciples peuvent dire « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu ne dis aucune similitude. » La vérité qu'ils n'avaient discernée qu'obscurément se précise et se clarifie par les paroles ouvertes du Seigneur. Et pourtant, combien peu ils comprenaient au travers de quelle mort le Seigneur allait retourner au Père. Aussi le Seigneur peut dire « Vous croyez maintenant ?» Certes, ils croyaient, mais, comme nous-mêmes, trop souvent, ils n'étaient guère conscients de leur propre faiblesse. Le Seigneur doit les avertir que l'heure venait et qu'elle était venue, où tous les disciples seraient dispersés, chacun chez soi, et que celui en qui ils venaient de professer croire serait laissé seul. Si toutefois il vient un moment où ceux qui ont été ses compagnons pendant sa vie, qui l'ont aimé et suivi, ne pensent plus qu'à eux-mêmes et s'éloignent de lui à l'heure de son épreuve, il ne sera pas seul, car, comme le Seigneur le dit, le Père est avec moi. Il ne dit pas « le Père sera avec moi », si vrai que cela soit, mais « le Père est avec moi ». Comme autrefois dans la scène qui n'était qu'une ombre de cette scène tellement plus solennelle, nous lisons au sujet d'Abraham et d'Isaac, comme ils se dirigeaient vers la montagne de Morija, ils allaient les deux ensemble, Genèse 22, verset 6. Ainsi, maintenant, le Père et le Fils sont ensemble à l'approche du sacrifice suprême. Verset 33. Mais si le Seigneur veut avertir les disciples de leur faiblesse, il ne veut pas les laisser sans une dernière parole de réconfort et d'encouragement. Quelles que soient les défaillances qu'ils aient à déplorer en eux-mêmes ou les épreuves qu'ils puissent avoir à rencontrer dans le monde, en Christ ils auraient la paix. Bien des choses, tant en eux-mêmes que dans le monde, seraient de nature à les troubler, mais en Christ ils auraient une ressource infaillible, quelqu'un en qui leur cœur pourrait se reposer dans une paix parfaite. Le monde pouvait certes persécuter les disciples, comme ils allaient bientôt l'éprouver, mais Christ a vaincu le monde. Comme les disciples, nous pouvons avoir bon courage, car celui qui nous aime, qui vit pour nous, qui vient pour nous, celui qui est avec nous est celui qui a vaincu le monde. Ainsi, ces précieux entretiens ne se terminent pas sans nous laisser une parole d'encouragement qui, nous élevant au-dessus de nos manquements, nous conduit dans la contemplation de la victoire du Seigneur.